France Inter.
C'est la bande oh oui. Soyez bienvenus oui. sur France Inter avec Julien Santini.
Bonjour.
Avec Lisa Delmoitier, Emma Beaujean.
Bonjour.
Olga.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Coucou Lisa.
Et nos invités bonjour. Aujourd'hui, Isabelle Huppert et Thierry Clipa.
Bravo.
Bonjour.
Leïla Kaddour, la bande originale.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Bonjour.
Soyez les bienvenus tous les deux. On va parler de la femme la plus riche du monde. Un film qui sera en salle mercredi prochain. Un film très attendu, qui a été présenté à Cannes avec vous, Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, un casting en majesté. Marina Foïs, Raphaël Persona, André Marcon, Mathieu Demy, entre autres, qui revient sur une histoire qui a passionné la France. Inspiré, vous le précisez tout de suite en ouverture du film, pour pas avoir d'ennui, c'est ça Thierry Clifax, c'est inspiré d'une histoire vraie ?
Oui, non, c'était pour... oui, c'est pas tant pour ne pas avoir d'ennui que pour préciser les choses et dans quel cadre j'allais raconter cette histoire.
Alors ce film justement interroge pas mal, hein, donc inspiré de l'affaire Bettencourt, enfin en tout cas de la famille Bettencourt, Liliane, les rapports avec sa fille Françoise, moi c'est les rapports avec la fille qui m'ont particulièrement perturbé et ému, bien sûr, avec le personnage du photographe qui entre dans sa vie comme une sorte de bouffée d'air frais, incarné par Laurent Lafitte. C'est surtout donc ce rapport à la fille et aux paroles d'amour qu'on peut se dire entre une mère et une fille. Si vous deviez, on fait un tour de table, me citer la phrase à travers laquelle votre mère vous transmet le plus d'amour, pas forcément par un « je t'aime », par un geste, par une phrase, ça se transmet et ça se traduit comment chez vous ? Si vous voulez, j'ouvre le bal, pour moi, oui. par exemple, chez moi, ça se traduit par « couvre-toi et surtout mange ». Mange. Donc on est vraiment sur une transmission de l'amour par la nourriture, quoi. En tout cas, par le contentement, par on se met bien, en tout cas, du côté de la nourriture. Emma, ça serait quoi, toi ? On connaît ta maman en plus.
Oui, je crois que c'est aussi, ça tourne autour de la nourriture. Mais surtout, il y a un truc assez dingue, c'est qu'elle arrive à capter des signaux de choses que je ne dis pas. Ah. Et quand je vais voir mes parents, et ben, par exemple, j'avais très envie de lasagne il y a 2-3 semaines. Je vous jure que c'est vrai. Et je l'ai dit dans ma tête. Mais oui, mais j'en ai fait. Ah ouais, elle a juste écouté ma chronique, en fait. Mais on n'en a pas reparlé et je suis arrivée chez mes parents.
Et comment tu fais physiquement pour inspirer la lasagne,
c'est ça, je sais pas, il y a un truc au niveau des épaules.
Je crois à ce lien incroyable de télépathie.
Mais très souvent, quand je vais pas bien dans ma vie, elle m'appelle, elle me dit là ça va pas, je le sens. Et c'est une forme d'amour aussi dans le non-langage verbal. Quoi.
Tanguy, toi ?
Moi, c'était la phrase « Tu nous ennuies, maintenant, va jouer sur l'autoroute. » Et voilà, tout va bien.
En effet, c'est un signe d'amour comme un autre.
Pas beaucoup de paroles.
Oldelaf.
Alors moi, c'est à sa manière, qui fait pas mal rire mes amis, mais de m'appeler mon bichon, que j'aime beaucoup finalement.
Ah oui, voilà. C'est petit
juste
mot doux.
Mon bichon, voilà.
Ah, c'est vrai. Et t'acceptes qu'elle te le dise en public ?
Ben, j'ai pas le choix. Elle est déjà venue en classe, m'a reparté ma trousse en disant t'as oublié ta trousse, mon bichon, quand t'es en sixième, ce sont des moments compliqués.
Ça s'appelle une année cuite, en fait, voilà. C'est
en
foutu.
Tout cas, on a une belle explication pourquoi il est comme ça.
Ouais, c'est vrai. Julien ?
Moi, ça passe par le reproche, c'est très bizarre.
Oui.
Puisqu'elle va me dire tu m'as pas appelé. Ben oui, la dernière fois qu'on s'est dit, c'était quand même il y a 2 heures. Mais tu m'as pas appelé, mais bon, ça veut dire que tu m'aimes, hein, quand tu me vois pas, tu m'as. Voilà, donc c'est très particulier, mais c'est
donc
un amour aussi.
C'était Marthe Villalonga. Un peu.
Ouais. C'est ça, Lisa.
Non, moi, elle m'appelle beaucoup et c'est très généreux, très dans le vocabulaire. Et je peux voir mon état de santé mentale par rapport à elle. Ouais. Parce qu'elle elle parle. Et quand elle sent que ça va vraiment pas, alors elle commence à glisser des mots écrits. Parce que ça devient plus pudique et c'est un peu précieux.
Ah, c'est bien, c'est un bon baromètre aussi.
Ouais, pour savoir où on en est. J'arrive chez eux, moi. Ma mère commence à écrire.
Daniel, toi ? Parce que Daniel a une maman. Eh oui. Et on n'imagine pas comme ça, dans une relation d'amour.
Et de temps en temps, elle me disait « Rends l'argent !»
C'est vous dire qu'elle m'en avait donné un peu.
Et vous, Isabelle et Thierry, ça passait par quoi, l'expression de l'affection maternelle ?
Mais là, c'est la fille ou la mère qui doivent parler
là,
les deux.
Je parle à la fille.
Couvre-toi, prends pas froid.
Ouais, c'est ça, de prendre soin. C'est ce que vous reproduisez aussi avec vos enfants.
Bien
ça passe
sûr,
par ça.
Bien sûr. Amour inconditionnel.
Amour inconditionnel, c'est beau ça. Et vous, Thierry ?
Sois prudent.
Ouais, ah. Toujours. Oui.
Tous les jours. Oui. Enfin, dès que je l'ai au téléphone, ça termine par soi prudent.
Ouais, en plus, c'est générique, ça veut tout dire et c'est on peut tout englober là-dedans.
Ouais. Ouais, ouais.
Oui, mais c'est un signe, en tout cas, de, voilà, d'attention portée.
Ou qu'on veut arrêter la conversation.
Sois prudent. Parce que dans La femme la plus riche du monde, on connaît donc cette histoire, hein, inspirée de l'histoire de Liliane Bettencourt, que vous incarnez, Isabelle Huppert, ce personnage-là qui est une milliardaire. Je ne sais même pas comment le dire autrement, tellement sa fortune semble colossale. C'est la plus riche, tout simplement. Qui est mariée avec un ancien ministre, un homme politique qui a des responsabilités, incarné par André Marcon, et qui voit arriver dans sa vie une sorte de tornade. Mmh. La tornade, c'est Laurent Lafitte, ce photographe comme ça. Alors, elle était heureuse dans sa vie, vraisemblablement. On a l'impression, en tout cas, qu'elle était pas malheureuse, Isabelle Huppert. Mais il y a quelque chose, il y a ce petit truc en plus qui débarque.
En tous les cas, le film ne la montre pas, oui, particulièrement malheureuse. Elle rencontre une autre forme de joie,
ouais,
très différente du bonheur un peu tiède, peut-être qu'elle connaît.
C'est ça.
Là où elle vit, un peu très confortable, évidemment. Mais elle rencontre autre chose. Elle rencontre la fantaisie, la drôlerie, l'humour.
Puis elle est bousculée.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
L'humour cruel, rien ne lui fait peur. Mais elle rencontre quelqu'un qui, au fond, révèle ce qu'elle est.
C'est ça.
Et non pas qui la révèle telle qu'elle n'a jamais été.
C'est ça.
Si elle répond si bien, c'est qu'elle a ça en elle.
Et
beaucoup d'humour et beaucoup de drôlerie.
C'est ça. Et on vous voit tous les deux former un duo. Vous formez souvent des duos assez inattendus avec Laurent Lafitte au cinéma.
Bah, c'est le deuxième.
C'est le deuxième, voilà. Oui. Mais enfin, le premier, c'était quand
dans
même
Elle, de Paul Verhoeven.
Voilà. Il y avait quand même une relation un peu particulière entre vos deux personnages.
Une bonne relation.
C'est ce qu'on appelle une bonne relation, absolument. Et c'est ce qu'on appelle un très bon film. Bravo à tous les deux. La femme la plus riche du monde, c'est en salle mercredi prochain. Et autour de cette table, enfin un peu isolée parce qu'on ne veut pas le garder vraiment trop près de nous, il y a quelqu'un qui vous aime particulièrement, qui est complètement fan de vous, c'est Oldelaf.
Mais évidemment.
Je suis fan d'Isabelle Huppert. Oui, peut-être la plus grande actrice du millénaire. Vous avez vraiment tourné dans le monde entier, comme mon dentiste avec sa fraise. C'est ma blague préférée. Je suis fan de Thierry Cliffa. Vous êtes passé de studio au studio de cinéma. Vos films racontent toujours des trucs engagés et sincères. Bon, c'est pas du Stallone, mais c'est quand même du Cliffhanger. Et vous êtes là pour la femme la plus riche du monde. Oui, on la connaît. On est très bien, c'est la femme de Nagui.
Ah oui.
Même si pour nous les chroniqueurs autant de pognon, ça ressemble plus à un film de science-fiction. Je suis fan de vous, Thierry et Isabelle. Le fait de vous avoir, ça rend la vie un peu plus belle.
C'est pas vrai.
J'avais plus le goût de rien, Grismine, quand Leïla m'a appelé du bureau. Elle m'a dit pour vendredi, devine qui on a comme invité à la radio. Je sais pas, Darmanin, Tex ou les Village People. Elle m'a dit non, non, t'es froid. Pierre Ménez, elle m'a dit non, t'es con, mais tu vas être en joie. C'est notre
super Huppert.
C'est génial, je revis. Et Thierry Cliffa.
Super
on est comme des rois.
Super
c'est nous les plus riches comme ça. C'est notre
super Huppert.
C'est génial, je revis. Et Thierry Cliffa.
Super Huppert.
Comme ça, oh, je suis pas Lisa, vous me gâtez au moins. Vous êtes là avec le Real parce que je le vaux bien. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous,
pas
avec
vous.
Qui ça donc
la bande originale.
Non.
Non, mais il ose tout.
Emma Beaujean,
c'est Old Laugh avec la complicité d'Emma Beaujean et Old Laugh.
Jamais on vous a rendu hommage
ouais,
comme ça.
Là, mais... vraiment, je pense qu'il peut faire. Là, on était. Il baisse les yeux. Non, regarde nos invités.
Alors, si vous voulez retrouver Old Laugh,
ah, bah, oui,
si vous
plaisir.
Avez ce courage et rien d'autre à faire, vous pouvez aller le 1er avril au Folies Bergères pour Opération Bretzel.
Non, c'est juste Old Laugh, c'est le spectacle. Spectacle de rock.
Ah oui, c'est juste le spectacle. Il a toute une gamme de toute façon à sa disposition. De la musique, il y en a aussi dans La femme la plus riche du monde. Parce que dans l'itinéraire de cette femme qui a tout, sans pour autant en faire étalage, qui est entourée, il y a des scènes comme ça, stratégiques dans ce film, des scènes de libération, des scènes de découverte presque de soi. Peut-être que l'argent n'a pas permis pendant toutes ces années de le montrer, Thierry Cliffa.
Bah, c'est-à-dire que c'est une femme qui a été la fille de son père, la femme de son mari. Elle est.
Vous donnez des sacrés indices.
Non, mais elle a pas véritablement été elle. Et après, moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même de prendre cette histoire, non pas par la fin, comme elle a été beaucoup racontée, mais par le début. Et le personnage de que joue Isabelle a été beaucoup quand même caricaturé. Et il y a quand même un regard assez misogyne sur ce que cette femme était véritablement, c'est-à-dire que c'était une femme assez admirable, brillante, très belle, très cultivée, une femme d'affaires redoutée, redoutable, et passionnée par les affaires. Et
pas simplement une héritière qui attend, en fait. Elle était très investie dans ses business, et on le voit dans le film, elle est là, elle siège, elle prend des décisions, elle n'a pas forcément sa langue dans sa poche d'ailleurs en matière de...
Non.
elle peut être un peu...
violente.
Oui, un peu violente. Même.
Oui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur des mots, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, et elle le fait de façon parfois un peu cassante.
Avec une élégance, une classe, comme ça elle traverse le film, comme ça, sans... Il n'y a pas un accro, il n'y a rien, tout est absolument parfait. Je pense que c'est un rêve, ça aussi, Isabelle Adjani, non Isabelle Le Huppert.
Pardon. Arrêt de l'émission.
Pardon Isabelle,
pardon.
C'est aussi un rêve, ça, de traverser comme ça ce film-là. Elle est, moi j'étais très attentive à sa classe naturelle.
Oui, mais en même temps, c'est... Elle a une classe jusqu'à la fin, mais enfin, elle traverse quand même des épisodes assez compliqués quand même. Il y a la révélation du passé de sa famille, notamment. Il y a cette relation extrêmement conflictuelle avec sa fille, si moi qu'on puisse dire. Donc le film ne fait pas du tout l'économie sur ces accidents. Et même le film est assez souvent drôle, enfin la plupart du temps très drôle, mais en même temps c'est une drôlerie assez glaçante,
c'est féroce,
cruelle, féroce. C'est le ton du film aussi qui nous a tous beaucoup inspirés et qui nous a permis aussi d'interpréter les personnages, parce que c'est un exercice à la fois très difficile et parfois un peu vain aussi que de vouloir reproduire de manière très très précise des personnages. Donc là on avait un ton un peu théâtral, un peu exagéré, le ton de la comédie. Tout simplement, qui nous donnait beaucoup de liberté dans la composition de ces personnages. Et puis ces personnages, ils sont plutôt à cause de ce ton pas forcément ni sympathique ni antipathique, c'est pas là d'ailleurs le problème, mais c'est qu'on finit par les trouver aussi attachants.
Très attachants.
Car il y a une dramatisation du propos au fur et à mesure du film, et notamment qui va donc jusqu'à cette relation extrêmement malaisante, c'est le moins qu'on puisse dire, entre cette mère et cette fille.
C'est vrai, les personnages, on part pas gagnant, et progressivement, on s'y attache. Paradoxalement, on s'y attache. Et c'est là aussi où je vois la grande réussite du film, c'est que c'est des personnages, pourtant sur le papier, a priori assez détestables.
Oui, parce que c'était intéressant, c'était de les montrer dans leur complexité, de faire... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que ces personnages avaient quand même été très caricaturés et avaient été réduits à... comme si c'était des marionnettes. Et ce qu'on a cherché avec Jacques Fieschi, Cédric Angers, en tout cas déjà au niveau de l'écriture, puis après avec les comédiens, c'était de leur donner leur part d'humanité. Mais l'humanité dans tout ce qu'elle comporte de plus flamboyant et de plus terrible et horrible. Donc c'était ça. Et je pense que du coup il y a quelque chose qui peut se créer entre le spectateur et ces personnages qui pourtant sont vraiment hors sol.
Est-ce qu'il y a un personnage en particulier, Thierry Clifford, on dit toujours que les réalisateurs investissent un peu plus un personnage qu'un autre. Là, ce serait lequel dans ce film, la femme la plus riche du monde?
Non, bah celui d'Isabelle.
Ah oui, j'ai vu le regard d'Isabelle. Il fallait répondre Isabelle.
Mais c'est vrai parce que je comprends ce personnage qui est un peu comme la Belle au bois dormant, c'est-à-dire qu'elle attendait qu'on la réveille. et je comprends cette espèce de, voilà, on a tout et en même temps il y a une sorte de neurasthénie et un événement provoque cette espèce, comme elle dit, elle saute de son sarcophage et ça me plaît bien, ça je peux le comprendre.
Et la première rencontre là, avec le photographe est formidable, d'un seul coup elle est bousculée comme jamais elle a été bousculée.
Elle est décoiffante, au sens figuré, cette première rencontre, propre, ouais. Et elle est décoiffée car il repère tout de suite par la manière dont elle est habillée, coiffée, ouais. Des signes d'appartenance sociale qu'il faut évidemment bousculer, ce à quoi elle va se livrer. Sur ce plan-là, avec un certain plaisir jusqu'à un certain point, parce que elle change quand même suffisamment souvent de costume.
C'est un défilé.
Oui, enfin, c'est pas. Oui, mais ça montre aussi, bon, une opulence certaine et puis une absence totale de préoccupation sur sur ce sujet. Voilà, les vêtements défilent comme les tableaux de maître sont accrochés au mur. Et les tableaux de maître, c'est intéressant parce que peut-être qu'elle a une relation, effectivement, à ce qu'on pourrait appeler. L'art, employer un mot un peu pompeux, ou l'expression artistique. Et tout d'un coup, à travers lui, elle rencontre, comme un monde parallèle auquel, au fond, elle n'a pas accès. Oui. Elle a peut-être des toiles de maître dans son salon, mais elle n'a pas. Et ça se traduit aussi dans cette scène très belle au milieu du film où elle entend cette femme chanter, c'est Anne Brochet qui chante. Et tout d'un coup, elle entrevoit quelque chose auquel, finalement, elle n'a jamais eu accès.
Une autre vie.
J'habite un pays étrange. De vapeur et de fumée, j'y dérobe la part des anges jusqu'à sombrer.
Une scène assez inattendue au cœur du film. Tout d'un coup, un personnage prend la parole et se met à chanter. Et justement, cette étrangeté-là vient conférer une poésie encore plus grande à ce moment-là, puisqu'on s'intéresse, aussi pensif que le personnage incarné par Isabelle Huppert, à ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte de la vie. C'est une chanson composée en plus spécialement, c'est Alex Baupin qui a donné vie comme ça à ces mots-là. Pourquoi ce moment-là dans ce film?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que André Téchiné m'avait dit, il ne faut pas dans un scénario être que dans l'efficacité, c'est-à-dire et ce moment c'est un peu un moment suspendu et puis c'est un moment un peu où le personnage d'Isabelle est comme en miroir par rapport à cette femme qui a choisi d'être déclassée. Et ça, forcément, un écho. Après, la raison aussi, mais ça, plus personnel, c'est que ça faisait référence aussi à un film que j'adore, de Claude Chabrol, qui s'appelle Betty, qui était joué par Marie Trintignant.
D'où ce prénom de Betty pour ce personnage.
Voilà, exactement. Et je trouvais que rendre un petit hommage à Claude Chabrol, c'était pas inutile.
Le clin d'œil est élégant, et puis c'est un moment d'émotion aussi dans cette de ce film qui va à toute allure aussi, où il y a de la comédie, où il y a plein de personnages qui entrent, qui sortent, où on voit les liens se tisser entre ces personnages avec les difficultés, puis le passif parfois qu'on connaît pas bien. Je pense notamment au mystérieux personnage incarné par Raphaël Persona, ce majordome au service de cette famille depuis si longtemps, qui lui doit tant à cette famille, qui va jouer un rôle clé dans l'affaire, puisqu'il va se livrer pour protéger cette famille à des enregistrements, et ça on retrouve le réel pour le coup. C'est la femme la plus riche du monde, et c'est en salle mercredi et tout de suite dans la bande originale, c'est Lisa Delmoitier. Alors Lisa, le problème c'est que Lisa Delmoitier n'aurait pas fait votre film comme ça.
Non, bonjour Thierry. écoutez, c'est-à-dire que je connais très peu de milliardaires. Pour vous dire, je crois que je connais autant de milliardaires qu'il y a de milliards sur mon compte. Voilà, ça veut dire zéro. Je précise, on ne se connaît pas personnellement, vous ne savez pas si je suis riche ou pas.
C'est
finalement.
Vrai.
Soit dit, j'ai l'impression que le look est un grand indice quand même. Vraiment, ouvrez les yeux vous deux, sinon ça va être long. Non, je ne connais pas de milliardaire, mais en voyant le film, je me suis quand même dit, putain, on n'arnaque pas assez Nagui ici. Non mais qu'est-ce qu'on fout là, franchement, sérieux. On travaille pour lui, non mais c'est un délire. C'est la personne la plus riche que je connaisse. En même temps, les personnes que je connais, c'est Old Olaf. Donc bon, comparaison n'est pas raison. Au pays des aveugles, le borgne est roi. Et bon, j'arrive déjà à court d'expression, moi. Je vais vous dire honnêtement, je pense qu'arnaquer un milliardaire, c'est pas une option. C'est une obligation. Voilà. Ceci est donc un traité en faveur du vidage de poche des gens d'en haut. Ah. En haut financièrement, je veux dire. Mmh. Pas littéralement en haut, on est au dernier étage, c'est le toit. Voilà. S'il y a un mec dessus en ce moment, soit il est là pour vider la gouttière de la maison de la radio, projet 10 ans, soit il est là pour projet d'en descendre très vite. Dans les deux cas, il ne roule pas sur l'or. Mmh. Attends, quelle drôle d'idée de rouler sur de l'or. Parce que pour rester dans le thème gouttière, le ruissellement là, hein, cette idée que plus les riches sont riches, plus ça retombe sur nous les gueux, clairement ça ne marche pas. Hein. Ça ruisselle que d'elle. Les riches sont beaucoup de choses, mais pas un continent. Un continent, par exemple, ce serait l'Asie, l'Afrique, voilà. Mais pas Bernard Arnault. Je crois que c'est Oldelaf qui ruisselle sur moi. Referme-moi ce sphincter à jeu de mots. Hein. Il fut un temps, j'avais de la dignité.
Oui, c'est vrai.
Tu te souviens, Leïla?
Oui.
La première saison.
Il y a longtemps.
Donc, le ruissellement des richesses, ben, il faut le provoquer. Hein, la poche des os, faut la percer. Oui. Quitte à arnaquer, c'est mon premier argument. Deuxième point. Les ultra-riches s'emmerdent. On le sait tous. Pensez à vos vies. Pensez-y, pas trop, parce que parfois c'est vertigineux, mais le piment, il vient pas des acquis, hein, il vient de l'ascension, il vient de la bataille quand t'es dans le dur. Voilà. Bon, Molo se l'a dit avec le piment, hein. Perso, en ce moment j'ai la langue en feu, je suis un peu minglotte. Mais quand tu as tout, t'es au sommet, hein. Littéralement, votre personnage Isabelle Huppert, fictionnelle bien sûr, elle fait ouvrir le bureau de poste le dimanche parce que flemme d'attendre le lundi.
Oui. Non,
mais le rêve,
ouais.
Enfin, le rêve pour une bourgeoise d'un certain âge. J'avoue que si je pouvais faire ouvrir n'importe quel endroit à n'importe quel moment, je commencerais peut-être pas par la poste. Je crois que je ferais la piscine municipale. Tout le monde y va à la même heure, c'est l'enfer. C'est On vrai. Est tout plein, à se cogner, à faire du crawl, les coudes serrés. J'ai l'impression de nager dans une couille, quoi.
Oh non.
Bon, le bonnet en latex contribue au total look spermato, c'est vrai. En fait, quand t'as tout gagné, est-ce que le seul moyen qui te reste pour pimenter ta vie, c'est pas donner un peu le frisson de perdre? C'est-à-dire, c'est la même dynamique que travailler dur pendant des mois pour tout miser au casino ou essayer de se construire une crédibilité tous les jours en tant qu'autrice pour finir par dire devant Isabelle Huppert que j'ai l'impression de nager dans une couille.
Oui, c'est ça.
Bon, ce qui s'appelle faire tapis, quoi. Et je parle pas de Bernard, mais d'un autre rôle incarné par Laurent Lafitte.
Oh, incroyable.
Merci.
Pardon.
Puisque c'est lui qui vous arnaque, Isabelle. Et moi, je suis jalouse de la façon avec laquelle il vous fait les poches ou le sac Hermès. Parce qu'il le fait avec panache. Hein. Quitte à se faire plumer financièrement, autant le faire en s'amusant. Mm. En tout cas, c'est ce que je me dis en bossant pour France Inter.
C'est ça.
Au moins, il y a une bonne ambiance. C'est pas juste. Hein. Les riches, même quand ils perdent de l'argent, c'est plus fun que quand ça nous arrive à nous. Quoi. Moi, quand je me fais arnaquer, c'est juste un gars qui me vole ma carte, comprend que mon code, c'est 1, 2, 3, 5. Oula, subtil, Lisa. Puis il va à la Fnac s'acheter un jeu vidéo, passe à la caisse pour payer, puis ma carte ne passe pas, évidemment. Il a cru quoi, lui? On est fin du mois. Tu crois que j'ai les moyens de jouer à FIFA? Donc FIFA, non, mais Clifa, oui.
Ouais.
Thierry, bravo. Oui, j'ai honte, mais c'est bientôt fini. Bravo pour ce film qui donne envie de perdre des millions avec panache, de voler aux riches pour se régaler, nous, et les amuser, eux, surtout. Oui. Ils s'ennuient, les pauvres. Faut les amuser. Et sur ce, je vous laisse. Je dois aller me confesser à l'église du rire pour ce jeu de mots sur un continent.
Oh, bravo, bravo, Lisa.
Remontada.
C'est le spectacle de Lisa Delmoitié. À voir où ça, Daniel?
Oh, sur le site internet de France Télévisions.
FranceTV.fr, tout simplement. Lisa vient de dire, tiens, cet ultra-riche se fait arnaquer par ce photographe. J'ai pas la sensation qu'elle se fasse arnaquer, en tout cas dans
justement.
Le film.
Non, non. Non, il lui prend pas au début, elle lui donne.
Elle lui donne.
Elle lui donne et...
Il y a certains moments où...
Il lui demande rien.
C'est vrai.
Elle, dans un premier temps, peut-être par la suite, il l'a mettre vu, mais dans un premier temps, elle lui donne et c'est comme si aussi elle accomplissait une sorte de rêve de mécénat à travers lui. Elle se sent en contribuant à son expression artistique tout d'un coup.
Mais la première fois, oui, c'est du mécénat, c'est pour qu'il puisse exposer. Ouais.
Comment ?
La première fois, c'est vraiment du mécénat pour qu'elle puisse exposer.
Oui, mais oui, bien sûr. Oui.
Ensuite, elle continue à vouloir justement le soutenir.
Il lui demande rien.
Il demande pas.
Après, il suggère quand même.
Il va finir par suggérer. Il va finir par ou lui rappeler certaines de ses promesses qu'elle a plus ou moins tenues. C'est un peu ça, peut-être, l'ambiguïté du personnage, Thierry Cliffa. Qu'est-ce que vous en avez fait comme lecture, vous ?
Oui. D'abord, il y a une scène qui est très importante dans le film, qui est tout au début du film, c'est quand elle donne 1 million d'euros. Exactement. Pour sa bar mitzvah, et ça pose un peu...
La scène est très drôle.
Oui, mais ça pose un peu ces gens-là, ce monde-là. C'est-à-dire que le rapport à l'argent est tellement différent. Enfin, je veux dire, on peut même pas imaginer. Moi, quand je parlais du personnage d'Isabelle, je lui dis, c'est comme si je te demandais de jouer Wonder Woman. C'est-à-dire que cette femme qui a autant... On ne peut pas savoir ce que c'est que d'avoir autant d'argent. On peut même pas l'imaginer. Enfin, voilà, si, il faut faire confiance à l'imaginaire. Mais c'est
faut
comme
un
si
petit effort.
Voilà.
petit
c'est
effort.
Comme, c'est ouais. comme si j'avais dit, je t'avais dit de jouer Wonder Woman. Qu'est-ce que c'est que de
Oh, mais je serais très bien arrivé.
Attention,
c'est mal me connaître.
C'est notre prochain film. Donc,
c'est bientôt Cannes. Hein,
donc voilà, et il y a aussi un élément qui est très important.
Mais pardon, Thierry, je vous interromps. Elle le dit elle-même. Elle-même avait reçu ce million-là de la part de son père. Donc en fait, elle ne fait que continuer une tradition.
Reproduire un modèle existant.
Oui, oui. Et puis c'est une manière aussi de faire un peu dérailler le train et cette espèce de morale que sa fille a et son éducation. Ah oui, c'est une forme de provocation. Mais par rapport au don qu'elle fait au personnage joué par Laurent, il y a un truc qui est très important, c'est que voilà, au début, elle donne comme ça. Et puis, il y a un moment donné où, quand son gendre prend la place au conseil d'administration de son mari, qui est mis sur la touche à cause d'écrits
antisémites qui ressortent.
Voilà, antisémites qu'il avait écrit dans un journal collaborationniste au début de la guerre. Mmh. C'est-à-dire que tout à coup, il y a quelque chose où elle est contre le fait qu'il rentre au conseil d'administration. Elle est persuadée que sa fille et son gendre vont l'effacer. C'est à partir de ce moment-là, quand même, que s'effectue véritablement la bascule.
Parce qu'elle le dit, elle, l'argent, elle s'en moque. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas une importance si capitale, puisqu'elle en a beaucoup. Et au fond, qu'est-ce qu'on vient lui reprocher de le distribuer? Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit de distribuer son propre argent? C'est ça aussi la question qui interroge dans le lien qu'elle a avec sa fille. On voit bien que la difficulté avec le personnage qu'incarne Marina Foïs, c'est l'absence d'amour, tout simplement.
Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans le film, en tous les cas, c'est le projet d'adoption.
L'adoption.
C'est là où, tout d'un coup, on quitte l'enjeu purement affectif, financier, politique aussi, parce qu'il y a l'aspect politique qui est très important sur les révélations familiales, mais c'est cette irruption dans l'histoire de la proposition d'adoption.
À adopter le personnage de Laurent Lafitte pour en faire son héritier, sans doute à égalité avec sa fille, et ne pas être justement embarrassé à l'idée de lui donner de l'argent, en fait. Et là, on voit bien que tout d'un coup, c'est une question de territoire. Il y a de territoire affectif, en fait. C'est le personnage de la fille se rebelle pour ça, parce que cet amour lui soit nié, elle le voit au quotidien, mais qu'officiellement, on puisse rivaliser sur cette position-là, c'est insupportable.
Oui, puis c'est vrai qu'au centre du film, c'est vraiment une histoire quand même d'amour et de désamour. C'est-à-dire que c'est une fille qui découvre que sa mère est capable d'aimer, d'aimer comme elle ne l'a jamais aimé. Donc l'argent, évidemment, tout va se cristalliser là-dessus, mais il y a évidemment bien autre chose.
Est-ce qu'elle est très aimable, cette fille? C'est la question qu'on se pose aussi.
Finalement, elle infligera à sa mère, enfin tout l'entourage infligera à Marianne Farrer, parce que je m'appelle Marianne Farrer.
C'est vrai.
Dans le film.
C'est vrai.
Pas du tout
l'autre nom.
Je m'appelle Marianne Farrer. Et elle infligera à Marianne Farrer la peine la plus extrême et la solitude absolue.
C'est horrible.
Et elle paiera le prix le plus élevé qu'elle n'a jamais payé pendant tout le film, qui est la solitude.
Absolument, et je trouve en ce sens-là la relation avec la fille terrible, parce que on peut comprendre, on peut se mettre à la place de chacun des personnages et être privé de l'amour de sa mère, je vois bien la difficulté, mais aller jusque-là dans cette brutalité aussi, alors bon, c'est peut-être le milieu dans lequel elle a été élevée, sans se livrer à une sorte de psychologie de comptoir, j'ai trouvé ça tellement terrible au point de se demander si elle était vraiment aimable, cette enfant.
Mais au point de se demander si c'est vraiment sa fille.
Oui, c'est la question qu'on peut se poser.
Je pense que c'est aussi le personnage d'Isabelle, c'est aussi un milieu de convention, et on voit bien que son mariage a été un mariage arrangé, même s'il y a une immense tendresse et amitié dans le couple qu'Isabelle forme avec André Marcon, mais est-ce que cette fille, elle l'a vraiment désirée, ou est-ce qu'elle a eu cette fille pour avoir uniquement un héritier ou une héritière?
Parce qu'il faut un enfant.
Parce que c'est comme ça qu'on fait.
Bah, pour avoir un héritier ou une héritière. C'est la question se pose pleinement. Et ce qui est intéressant, c'est que on raconte rarement, déjà ce milieu, et on raconte rarement, cette chose-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé
d'aimer ses enfants?
D'aimer ses enfants.
Ça pose une vraie question.
Elle dit clairement, donc, qu'ils se sont pas du tout obligés de l'aimer.
Oui. Et puis elle lui dit pire aussi. Enfin, je veux dire, elle la dégrade quand même, les discussions qu'il peut y avoir entre elles sont quand même là encore d'une violence terrible, puisqu'elle lui reproche de ne pas être suffisamment en place, être dans le bon rang.
Elle la trouve très ennuyeuse.
Oui.
C'est vrai qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
C'est vrai.
Et qu'elle, elle est un personnage, elle a un côté punk, au fond, finalement. Elle est elle a beaucoup d'humour, elle est prête à entendre les pires horreurs. Elle n'a rien à voir avec cette fille.
Les
rien.
Pires horreurs, on les voit, on les entend avec le personnage de Laurent Lafitte.
Elle est capable de les entendre et elle est capable de les dire.
De les dire, oui.
Elle finit par les dire à sa fille.
Et le dire en face à face, les yeux dans les yeux, dans des scènes comme ça qui sont un peu traumatiques.
Très, très froides.
Oui, très froides, ouais. Très factuelles. Et ça va pas plus loin, comme s'il n'y avait même pas d'affect là-dedans. On a une galerie de personnages comme ça. C'est un film aussi qui est très joyeux pour ça, parce que chacun vient apporter sa tonalité dans l'histoire. Et il y a le personnage de Raphaël Persona qui est particulièrement étrange, parce qu'il est au service de la maison depuis tellement longtemps, Thierry Cliffa. Lui, c'est une sorte de témoin comme ça qui va bouger au gré des événements.
C'est un peu le trait d'union entre nous et cette histoire.
Le monde d'en haut et d'en bas, c'est ça ?
Un peu, et c'est un personnage, ce qui est très intéressant, c'est un personnage qui passe de la fascination à l'effroi. Et ce que je voulais pas non plus en faire le regard moral sur l'histoire. Je pense que tout ça était beaucoup plus complexe, mais c'est le personnage qui va être en fait roué de coups par cette histoire, puisque c'est le seul qui va pas s'en sortir. Il va être vraiment brisé. Et c'est-à-dire qu'on lui a, il est là, il voit tout, il entend tout, il est là pour les soutenir, pour les, il est comme une sorte de boîte à secrets. Et on lui a fait croire qu'il faisait partie de cette famille. Et on voit bien à la fin du film, sans tout spoiler, mais que c'est non.
Il est un peu sacrificiel, quoi. Cette famille l'a un peu sauvé. Et c'est comme s'il lui devait absolument tout.
Tout, exactement.
Il perdra tout.
Et il sera sacrifié.
C'est dur à dire.
Oui.
Oui.
Beaucoup de S.
Oui, c'est ça, beaucoup de S. Thierry Cliffa signe la femme la plus riche du monde avec Isabelle Huppert dans ce rôle absolument génial. Vous avez pris beaucoup de plaisir à l'incarner.
Oui, beaucoup. On a tous pris du plaisir à être ensemble. Je pensais à Raphaël. Au fond, je me disais, il est pas sacrifié comme acteur parce qu'il est absolument formidable dans le film.
Si, capillairement, il est un peu sacrifié quand même. Alors, on a une petite couleur qui est un peu. Voilà.
Moi, je trouve très beau en blond.
Oui. Sa
fiancée n'est pas d'accord, mais
voilà. Voilà, il y avait une vraie une grande harmonie, contrairement à l'histoire qu'on est en train de raconter. Ce qui circulait entre nous était inversement proportionnel à la violence qu'on avait à raconter dans le film.
Il y a une très jolie scène quand vous discutez tous les deux sur l'absence de l'être aimé, même si ça fait très longtemps et qu'on s'est un petit peu écarté. Il y a quand même des trucs qui reviennent et qui finissent par manquer, même si c'est juste des gestes. Et vous partagez ça avec lui?
Avec
Raphaël.
Ah oui, absolument. Ouais. Avec Raphaël. Oui, il y a une relation très, très forte. Et puis à la fin du film, quand il y a une ambiguïté aussi sur la perte de ses facultés, ou si elle est juste très, 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 très fatiguée. Donc il est très, très présent avec elle. Il comprend beaucoup de choses et il comprend peut-être aussi qu'elle fait semblant de le faire. Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Il y a une très grande ambiguïté aussi à ce moment-là.
Il y a un doute permanent. C'est vrai, on se demande ce qui relève de quoi, justement, de la fatigue, de l'âge, du jeu, du deuil véritable. En tout cas, on s'interroge au fur et à mesure dans ce super film, La femme la plus riche du monde. Et tout de suite, dans la bande originale, c'est Julien Santini. Allez, Julien.
Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage aux stand-uppers. Observateurs sociétaux à nul autre pareil, ils sont aussi les clowns tristes 2.0.
Pardon, vous l'avez peut-être compris, ou Isabelle, Thierry, pas compris. Je viens de me moquer d'Emma Beaujean, qui en fait commence ses chroniques en rendant un hommage. Et je sens que, c'était pas peut-être très clair. Et je sens surtout que ce n'est pas efficace. Et Isabelle, pardon, Thierry, le début d'une chronique, c'est vachement important. J'ai besoin de votre énergie, je ne la sens pas. Donc vous rigolez pas. Mais si vous rigolez pas, je vais être très sincère, forcez-vous. En revanche, je voulais vraiment parler de stand-up. Bien. Il ne vous aura pas échappé qu'à côté du formidable chroniqueur que je suis aussi un stand-upper, une espèce que Daniel méprise certainement, là où Leïla ne cherche qu'à les comprendre, pour mieux les interviewer et les mettre en valeur.
Oui.
Rejoins-moi ce soir, Leïla. Je suis un stand-upper, disais-je donc, et à ce titre-là, j'évolue de façon border. J'évolue aussi dans des comedy clubs où je suis... Tenez-vous bien, officiellement, vieux. C'est ce que j'ai compris, puisqu'ils me le disent tous. Ce sont les autres stand-uppers, comprenez les jeunes. Et jeunes, ils le sont, puisqu'ils ont en moyenne tous en dessous de 30 ans. Si jeunes, et déjà ce goût de seum dans la bouche. Je ne citerai pas de nom, parce que je suis pas une balance, étant donné que je viens de la terre de Pascal Paoli. Moi, le fils spirituel de Frédéric Antonetti. Oh, Freddy, reprends le banc du Sporting. Je t'en supplie, on se fait mettre par Rodez. Aïe, Rodez, Léodette. C'est quoi la prochaine route? Dunkerque. Donc, je ne citerai citerai pas de nom, car ils se reconnaîtront tous. Mais quand j'étais dans une période où je vendais pas beaucoup de billets, à savoir les trois quarts du temps de ma carrière, j'étais le GOAT. Santini, t'es fantastique. Ouais. Là, les gens, ils ont pas compris, mais ils sont pas prêts. Mais tu verras un jour quand ils comprendront. Apparemment, ils viennent de comprendre. Et j'entends pourtant au Comedy Club, ouais, mais quelque part, c'est normal de réussir à un moment. Santini, t'as 66 ans. Alors, bien sûr, c'est faux, étant donné que j'en ai 64. Et, oh là, qu'est-ce que je fais là? Je me moque des gens qui ont 64 ans, c'est nul. Ouais, mais c'est qui a commencé? J'avoue que toute remarque sur l'âge, comme sur mes cheveux qui tomberaient, comme sur mon front qui serait une piste d'aéroport, et comme la taille de ma moustache entre le bas de mon nez et le haut de ma lèvre supérieure, c'est non. Homer Simpson en a marre. Ou plutôt, Omar Simpson en a plein le dos. Alors attention, hein, je respecte tous mes amis stand-uppers, ces petits génies qui, au moment où je vous parle, doivent dire « Eh, tu sais qu'il m'est arrivé un truc de dingue hier en allant chez Orange. Je vais en faire un 5 minutes. » Vous l'avez compris, je n'ai pas de frère dans le stand-up. Je me vois comme un mercenaire dans ce milieu. Qui me paye et m'achète, dispose de moi, forever, ever. C'est marrant de penser quand même que c'est l'âge qui apporte le succès. Moi, je le savais pas, je suis dépassé, je pensais que c'était le talent. Je dois être honnête, dans mon spectacle, que je fais un moment une parodie de stand-upper que Télérama a jugé comme étant le seul moment un peu facile, mais après, je m'en balais, que j'ai eu les 3 T. Pareil, ah ouais. S'il vous plaît, les amis, arrêtez de dire que vos spectacles sont, je cite, en rodage. Le rodage, à la base, c'est un terme pour qualifier le spectacle d'un artiste qui a 10 ans de carrière et de succès et qui s'apprête à sortir le suivant. Moi, j'ai un pote à moi qui démarre, que j'aime, qui a marqué rodage sur son affiche, j'ai eu envie de le gifler. Et je l'ai giflé. Monsieur rôde. Oui, il rôde. En bas de sa rue. Merci. Non, mais vous savez, là, on est un... C'est pas grave. Isabelle, je vous aime tellement. Mais on est à un moment un peu charnière de cette chronique où je me pose la question de savoir, ça me renvoie à moi-même, est-ce que c'est pas moi qui ai au fond un énorme seum en fait? Et c'est très grave. En tout cas, si j'avais un doute sur le fait d'être vieux, le doute a été levé par la profession cinématographique, mesdames et messieurs. Je vais prochainement tourner dans un film et figurez-vous qu'ils font passer un casting pour un rôle précis pour interpréter moi, mes jeunes. L'annonce est folle. Je le cite. Il s'agit d'incarner le comédien Julien Santini, entre parenthèses, photo en pièce jointe, jeune. Il doit avoir les cheveux bouclés bruns. Fin de citation. C'est tout. Le direcast pouvait pas me mettre bien. Cherche beau gosse, type libanais, avec des cheveux qui tombent, un front comme le tarmac d'un aéroport, sosie d'Homer Simpson et de Monk. Pardon, me suis emballé, mais je les ai là. C'est fou qu'il m'ait pas demandé mon aide pour la description. Je suis encore celui qui se connaît le mieux avec ma mère, mon psy, mon revendeur de lithium et mon agent probation. Ça marche pas tant que ça, mais c'est un rajout du rédac chef qui est juste derrière et que tout à l'heure, je vais ôter la vie. Après, je suis peut-être vieux, c'est peut-être moi qui ai rien compris, mais je n'en veux à personne. My fault. Je sais juste que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point. Et bon, j'ai pas la fin de la phrase, et c'est pas bien grave, vous savez pourquoi? Parce que cette chronique aussi, elle était en rodage.
Oh, bravo! Et tout le monde a ri autour de la table, je veux dire,
c'est
parce que t'as observé.
C'est pourquoi? Parce qu'on avait peur. Et sur scène, le 1er novembre, à Mordelieu, l'Anapoule, le 8 novembre à Paris, à la Gaîté Montparnasse, comme tous les vendredis d'ailleurs, et le 15 novembre à Saint-Cyr l'école.
Et la femme la plus riche du monde, au cinéma, mercredi prochain. On a parlé de ce moment musical qui amène aussi beaucoup de poésie. Il y a des moments face caméra où les personnages assument ce qu'ils ont à nous raconter pour faire avancer le récit, comme si on était dans une sorte de documentaire.
Oui, oui. C'est venu assez rapidement parce que je trouvais ça important que ça soit une sorte de récit polyphonique et que chaque personnage ait non pas... c'était pas ni pour commenter ce qui s'était passé ni pour raconter ce qui allait arriver, mais c'était différentes vérités, différents points de vue. Et c'est aussi parce que à l'époque où l'affaire est sortie, en fait, les principaux protagonistes se sont exprimés, mais c'était pas leurs mots.
Oui.
En fait, c'était que des éléments de langage, c'était des communicants qui étaient derrière. Et je trouvais ça assez intéressant de revenir peut-être à la façon dont il se serait exprimé vraiment s'il n'y avait pas eu tous ces enjeux.
Une autre façon de les humaniser aussi.
Oui, aussi. Ça rapproche des mots comme ça, un peu plus proche du personnage. On va s'intéresser à votre bande originale, aux musiques que vous écoutiez à certains moments de votre vie. On commence par vous, Isabelle. En 2001, vous écoutiez... Vous avez choisi Schubert pour incarner la pianiste.
J'espère que je vais pas faire pleurer tout le monde. J'ai senti un grand silence.
Ouais, c'est très beau.
Oui, c'est, alors ça, c'est en enregistrement en plus de Alfred Brendel, qui était un immense pianiste qui a disparu au mois de juin et qui a énormément enregistré Schubert. Et je joue Schubert presque aussi bien que lui dans la pianiste. C'est pas ce morceau-là que je joue, mais elle joue beaucoup Schubert dans la pianiste.
Vous jouez au piano ? Vous jouez au piano ?
Je joue un peu de piano, oui. Enfin, ça fait bien longtemps que j'ai pas joué, mais dans la pianiste, disons que c'était mes doigts.
Pour cette interprétation avec Benoît Magimel, vous êtes célébrés tous les deux à Cannes. Doublement, c'est quand même assez rare dans l'histoire du cinéma pour être souligné dans ce film de Michael Haneke. Vous dites que ce film a été un moment charnière de votre carrière, en quoi ?
Même le film, il a eu 3 prix. Enfin, je dis ça.
Si, non,
il faut le dire. Vous avez raison.
Il y a eu aussi un
grand
prix du jury, c'est ça, un Thierry.
Un Thierry mémoire vivante.
C'était, enfin, un moment charnière. Tous les films sont des moments charnières. Après, on comprend qu'il y a des films, voilà, qui ont été, qui ont plus impressionné que d'autres, mais.
Il a plus compté pour vous, ce film, ou pas ? Pas forcément.
Ben, il a compté dans ma rencontre avec Michael Haneke, qui est vraiment un très très grand cinéaste, oui. Un immense metteur en scène. J'ai fait après 3 films avec lui. Mmh.
Dans ces années-là, Thierry, vous vous écoutiez.
Le monde est comme toi, le monde est bleu comme toi.
Étienne Dao et ça repart, hein, tout simplement. Étienne Dao, bleu comme toi. Pourquoi avoir choisi cette musique ?
Parce que j'adore Étienne Dao. ça m'accompagne. Enfin, en 2001, voilà, mais ça aurait pu être en 90. Ça pourrait être
toute
en 2020,
votre vie.
25. Non, oui, c'est quelqu'un qui me donne la pêche. C'est quelqu'un que je trouve très au-dessus de la mêlée et que, en plus, j'aime beaucoup dans la vie. Donc très souvent, je me ressource. En écoutant
du
Dao. Oui. Je suis particulièrement amoureux de ce qu'il fait.
Et vous réalisez à cette époque-là, Émilie est partie, c'est votre premier court-métrage.
Ouais.
Vous vous souvenez de son histoire, j'imagine, encore.
Oh, oui. Ouais.
Parce qu'il y a parfois des réalisateurs qui sont hyper embêtés à l'idée de raconter l'histoire d'un premier court-métrage. Ça remonte à quelques années, parce qu'ils ne s'en souviennent plus du tout.
Non,
on reçoit des gens malades. Hein,
je suis un peu hyper amnésique, je me souviens de tout.
J'ai cru comprendre. Ouais.
Et non, Émilie est partie, c'est une aventure extraordinaire. D'abord parce que j'ai eu un peu comme marraine de cinéma Daniel Darieux, puisque c'est elle qui a accepté. Mm-hmm. Il y avait son ami qui Berlin aussi, et Michael Cohen. Mais c'était un film qui était... quelque part en hommage à ma grand-mère qui est à la base de ma cinéphilie et
qui vous emmenait au cinéma et qui vous proposait de voir un Disney contre un autre film, c'est
voilà.
Ça fallait alterner,
exactement,
hein.
Elle se disait que
c'est un bon deal, ça.
Elle me disait tu comprendras pas tout mais c'est pas grave, tu enregistreras des choses.
Super.
C'est vrai que j'ai vraiment appris la vie à travers les films. Je dis c'est ça
ouais.
C'est ça l'amour, c'est ça l'amitié, c'est ça des j'ai d'abord éprouvé les choses à travers les films que dans la vie.
Et on n'est pas déçu après dans la vie ?
Un peu. Oh. Ah, si. Mais bon, moi, je fais partie de ceux qui préfèrent le cinéma à la vie. Donc,
On est quand même contents de vous avoir.
Ouais,
là,
nous, on est ravis.
On est très heureux.
Aujourd'hui, préfère la vie, j'en suis sûr. On passe à l'année 2004. Isabelle, vous écoutiez ?
Just take that scenery by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety.
Louis Armstrong.
Oui, alors ça, c'est un film que j'ai regardé des dizaines de fois, que j'adore, que c'est High Society de Charles Walters avec Grace Kelly et Sinatra. Et la première scène du film, c'est Louis Armstrong qui chante cette chanson au fond d'un bus. Et voilà, c'est une scène géniale. Et c'est Louis Armstrong
qui vous met
c'est
en génial. Joie. Je vous ai vu.
Oui,
bouger.
Tout le film me met en joie. Après, il y a une chanson extraordinaire que chante Sinatra. C'est Steve Martin. C'est qui l'autre acteur ? Enfin bref, l'autre acteur. Et alors, il chante une chanson géniale où qui dit "Collide the Star", les étoiles qui se cognent. J'adore ce film.
Et à cette époque, vous tournez dans une comédie. J'adore Huckabees.
Oui, et c'est pendant que je tournais Huckabees, qui est un film de David Russell que je tournais à Los Angeles. Que je regardais tout le temps ce film. Ce que je tournais n'avait rien à voir avec High Society. C'est un, mais David Russell, c'est un très bon metteur en scène, mais il est
complètement fou. Et le film était hautement improbable. Et le tournage ne l'était pas moins, mais c'est néanmoins un très bon souvenir.
Et ça donne un bon film ou pas?
Oui, ça donne un assez bon film, oui, qu'il faudra le revoir. Oui,
je crois. Oui, oui. Dans ces mêmes années, Thierry, vous écoutiez? Alors là, on a le fin du fin, quoi. Barbara Streisand et Donna Summer, ça rappelle la scène du Poppers dans le film, là, vraiment.
Ah bah oui, oui, oui.
C'est
oui.
Une scène géniale, cette scène, Isabelle. Vous et Laurent dansant en boîte de nuit avec le Poppers, je pense que ça va rester. Ça va rester.
Oui, c'est une scène particulièrement joyeuse et qui succède à cette scène un peu mélancolique où j'écoute cette Anne Brochet chanter. Et là, on s'éclate.
On se libère.
On se libère.
Ouais. Thierry, pourquoi avoir choisi cette musique?
Parce que je pense que Barbara Streisand est vraiment, pour moi, une icône pop incroyable, aussi bien en tant qu'actrice, que chanteuse, que réalisatrice,
que productrice,
tout. Quand je suis arrivé à studio, c'est drôle parce que c'était l'actrice la plus puissante et la plus payée d'Hollywood, c'était au début des années 90. Et je sais pas bien si on mesure en France ce qu'elle a pu représenter. C'est-à-dire que c'est une des premières femmes réalisatrices. Je sais que Yentl, qui est vraiment un très grand film, on lui a mis des bâtons dans les roues. Ouais. Aussi puissante, personne n'y croyait, personne ne voulait qu'elle réalise ce film. Et j'adore sa pugnacité, j'adore ses prises de position, je trouve que c'est...
Prise de pouvoir aussi.
Oui, prise de pouvoir, ouais. Je trouve que c'est vraiment une femme remarquable.
Et là, vous tournez Une vie à t'attendre, votre premier long-métrage avec Patrick Bruel et Nathalie Baye. Oui. Et vous remerciez toujours Patrick Bruel au générique de vos films, j'ai l'impression. En tout cas, à celui-ci, vous le remerciez.
Il vous menace?
C'est des menaces. Patrick, je l'ai rencontré en 86, j'étais encore à l'école, et il m'a dit... on a parlé de cinéma, on s'est rencontré comme ça, et il m'a dit, un jour tu feras des films, je ferai ton premier film, et si je peux t'aider, je t'aiderai. Et c'est lui qui m'a présenté Jean-Pierre Lavoignat et Marc Esposito à Studio. Je voulais faire un stage, et eux m'ont proposé tout de suite de m'engager, ce qui était assez incroyable, j'avais 21 ans. Et Patrick, sur ce film-là, comme sur d'autres, il a investi dedans parce qu'il y croyait, et que c'est sa manière de participer. Je lui avais dédié mon court-métrage, d'ailleurs, parce que c'était la première personne qui avait cru en moi.
Vous êtes fidèle, vous êtes
reconnaissant
et reconnaissant, absolument. Ah oui, oui. On passe aux années 2010-2011, Isabelle, vous écoutiez.
Ah, il est loin, Schubert, là.
Daniel.
C'est beau de vous voir danser, Isabelle.
J'adore danser. Vous voulez que je danse je peux monter sur la table.
Wonder Woman,
vous dansez super bien.
Attention.
Ouais.
Ouais, je crois.
Oh, c'est. Ouais.
C'est comme ça.
Alors, ça, c'est Madonna.
Oui.
J'adore cette chanson. Et le clip qui va avec cette chanson, il est extraordinaire.
Au point de reconstituer la chorégraphie.
En body argenté.
Violet argenté, elle est géniale.
C'est une leçon.
Super bien.
Ouais, c'est une leçon.
Et la chanson est très belle.
Et à cette époque-là, on va parler de New York Unité Spéciale.
Unité spéciale, qu'est-ce que je faisais là? Ah, j'ai chanté. J'ai joué. Oui.
Vous êtes comédienne. Vous êtes comédienne.
Vous avez joué dans une série américaine.
C'est une des premières séries en fait. Enfin, moi, j'ai pas fait la première.
Non.
Mais c'est une des premières.
C'est hyper connu.
Oui, c'est hyper connu en fait. Régulièrement, je tombe sur des épisodes.
Mais oui, la télé. Tard le soir.
Oui, tard le soir sur TF1. Doublé, c'est moins bien.
Oui.
Mais oui, il y avait Sharon Stone dans mon épisode. Oui. Mais c'est le rôle était vachement bien. Enfin, vachement. C'était pas très drôle parce que c'était une femme dont l'enfant se faisait kidnapper. Enfin, bref. Bon, je vais pas vous dire la fin. Mais c'était assez agréable de tourner ça.
Et c'est une série hyper populaire.
Oui.
Vous êtes contacté comment?
Special Victim Unit. Voilà.
Oui, voilà.
C'est ça,
je crois.
Oui.
Ouais. Et vous êtes contacté comment pour cette série?
Eh ben, je sais pas, on m'appelle.
Ouais,
En
général.
Non, parce que... Anna, comment ça s'est... Puis, en fait, j'avais failli ne pas pouvoir la tourner parce que c'était une époque où les vols avaient été interrompus parce qu'il y avait un nuage au-dessus de la Finlande, non, c'est pas
ça? Ah oui,
le volcan.
Le volcan, c'est ça? Absolument.
Voilà. Donc, finalement, j'ai réussi à passer à travers le nuage.
C'est là le côté Wonder Woman.
Ça, c'est le pouvoir des Isabelle de partir.
Et alors, on a tourné assez vite, un peu jour et nuit, voilà. Et non, oui, on m'a appelé.
Dans ces mêmes années, Thierry, vous écoutiez
Souvenir,
là, je ne l'ai pas tout de suite.
Amour.
Et pourtant, elle est là.
Mot d'amour.
Thierry, expliquez-nous, de qui s'agit-il ?
Il s'agit d'Isabelle, dans Signé Charlotte, qui est un film que j'aime beaucoup.
C'est pas Madonna.
C'est mieux.
Ah, c'est dans Signé Charlotte,
oui,
bien sûr.
Et cette chanson, elle est parue il n'y a pas très longtemps, enfin je veux dire, elle est ressortie il n'y a pas très longtemps, et j'adore les actrices qui chantent, et j'adore quand Isabelle chante.
Et c'est surtout un film de ma sœur,
oui, Caroline Huppert, et qui est un très
beau film, Signé Charlotte, avec Nils Arestrup,
ouais,
et Christine Pascal.
Et voilà, elle sait donc tout faire. Elle chante, danse sur les tables, et elle incarne aussi la femme la plus riche du monde. Et pour en parler, on accueille Fabrice.
On incarne
mon cher Fabrice d'Almeida, que tout le monde connaît sur la planète, historien, chercheur, auteur de l'histoire mondiale des riches aux éditions Plon. Ça tombe bien. C'est quoi un riche, Fabrice ?
Pour moi, c'est quelqu'un qui peut s'offrir des jets privés et qui peut faire des grands voyages dans des belles maisons et des endroits splendides.
Il faut beaucoup d'argent pour être considéré comme riche.
Alors moi, j'ai pris les milliardaires.
Oui.
Je me suis dit, voilà, j'ai donné une définition. C'est ceux qui peuvent se payer les moyens de transport les plus rapides. Donc, en gros, sur la planète, c'est environ 10 000 personnes qui peuvent acheter un jet ou louer des jets très régulièrement.
Pas plus, non ?
Un peu plus, on peut monter à 12 000 si tu veux.
Donc c'est à peine c'est infime comme proportion d'habitants sur la planète.
Ah oui, c'est parce que moi j'ai vraiment pris ceux dont je pense qu'ils ont les moyens de tordre la société s'ils en ont envie.
D'accord. Et justement, les plus riches au moment où on se parle, c'est qui ?
C'est celui dont on parle tout le temps, c'est toujours Elon Musk. Alors, de temps en temps, il y a quelqu'un qui lui met une courte tête devant. Il y a eu Larry Ellison au printemps, qui lui aussi est dans le numérique. Et puis, on a eu quand même notre Bernard Arnault national qui, pendant un moment, lui est passé devant.
C'est vrai. Mais elles sont où, les femmes, dans tout ça ?
Alors, il y en a un petit peu. On a tendance à considérer qu'il n'y en a pas. En fait, il y a environ 10% de femmes qui sont parmi les plus riches. Donc, le personnage incarné par Isabelle Huppert, Madame Bettencourt, sa fille aujourd'hui, est la deuxième plus grande fortune féminine mondiale. Donc voilà, on dit à peu près 10%, mais on pourrait compter autrement, parce qu'un certain nombre de couples, on le voit au moment des divorces, doivent partager leur fortune.
Ça divise en deux.
Exactement. Mais bon, ça veut dire que madame peut être très riche aussi.
Absolument. Comment s'est perçue la richesse selon les pays, selon les continents ? Est-ce qu'on a une perception différente ? J'ai tendance à penser qu'aux États-Unis, c'est plutôt valorisé.
Oui, bien sûr. Là, il y a des endroits où c'est très bien d'être riche. Il y a des endroits où ça correspond en plus à l'homme le plus puissant du pays. Quand on regarde les monarchies du golf, il y a une congruence entre les deux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où la fortune, suivant la culture, notamment les pays catholiques, est considérée peut-être comme excessive, abusive.
Le rapport à l'argent est plus délicat. En France, par exemple, on voit d'un mauvais œil les très très riches.
En ce moment, il y a un débat là-dessus, comme vous savez, autour de la fiscalité, et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dent un peu contre les riches.
Oui. Quand vous avez fait ce tour du monde des riches, comme ça, comment vous y êtes pris ? Vous avez recensé, parce que c'est plus ou moins public, en tout cas, ces grandes richesses.
Il y a une chance, oui. Enfin, c'était plus dur pour le 19e siècle, parce qu'il n'y avait pas un carnet mondial. Oui. Donc, mais quand même, déjà...
Vous les repérez avec les jets, en fait.
Dès les années 1890, des journaux comme le New York Times essayent de dire qui est le plus riche américain, qui est le plus riche mondial. Donc j'ai pu retrouver comme ça, grâce aux archives de presse, ce qu'eux considéraient être les plus riches.
Avec un classement comme ça du plus riche.
En général, ils en donnaient un ou deux, mais ils allaient pas, ils descendaient pas plus.
Alors, une fois qu'on a beaucoup d'argent, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent ? Quelle est l'ambition ? Quelle est la motivation de ces ultra riches ?
Alors, pendant longtemps, c'était la puissance. Ensuite, ça a été l'art, parce qu'on oublie de le dire, mais il y en a énormément. Je pense au Rockefeller, par exemple. Il y aurait pas le MoMA à New York, c'est-à-dire le plus grand musée d'art moderne, s'il y avait pas eu Madame Rockefeller pour réunir ses amis, elle-même richissime, et donc créer cet organe. De la même manière, au Portugal, il y a une fondation qui est la fondation Gulbenkian, qui est le plus riche maintenant dit-on portugais, alors qu'en fait, disons-le, il était arménien et il a beaucoup habité en France avant de finir sa vie au Portugal. Donc voilà, et lui a créé une fondation dans laquelle il y a des œuvres d'art absolument époustouflantes. C'est un musée qu'il a constitué. Et aujourd'hui, on voit bien que des riches comme Arnaud ou Pinault ont constitué aussi de magnifiques collections qui servent à des expositions. Donc l'art les a beaucoup inspirés, mais il y en a quand même beaucoup qui aiment l'argent pour l'argent.
Tout simplement.
Voilà. Bah alors, et même pour le rang que ça donne.
Et pour le pouvoir, non ?
Oui, pour le rang, le pouvoir, les accès. Et puis, en même temps, bon, ça, c'est les aspects positifs. Mais de l'autre côté, il y a toute la pression que ça met. Pression parce qu'il y a des demandes permanentes qui tombent. Donc, ça demande une organisation. Il y a des menaces. Menaces d'enlèvement, menaces de pression. Il y a des attaques, il y a des agressions. Donc, voilà, il y a...
Dire que c'est pas si facile d'être riche.
Chaque pièce a sa médaille. A son revers, pardon. Chaque médaille a son revers.
Et les ambitions politiques aussi. Parce qu'on a parlé du pouvoir, mais la politique, c'est encore autre chose.
Oui, alors ça a évolué selon les époques. Et c'est vrai que le moment où peut-être ça change, c'est Berlusconi. C'était en 1994, rappelez-vous, le plus riche des Italiens décide d'entrer en politique, alors que jusqu'à présent, il se contentait de les acheter. C'était beaucoup plus simple. Là, il décide de le faire lui-même, et voilà, parce que les gens qu'il avait achetés sont condamnés ou sont en exil, comme Bettino Craxi, qui est en Tunisie.
L'histoire mondiale des riches, c'est aussi passionnant que Fabrice d'Almeida aux éditions Plomb. Merci Fabrice d'être venu. Il y a Tanguy Pastureau à vos côtés. On parle de quoi tout à l'heure ?
Eh bien, sujet de fond aujourd'hui, je vais vous parler du flan pâtissier, une passion française, parce qu'un livre formidable vient de sortir sur le sujet.
Merci Tanguy, à tout de suite. C'est le retour de la bande originale avec Julien Santini, avec Emma Beaujean, Tanguy Pastureau, Lisa Delmoitié autour de la table, Paul Delaf, mon cher Daniel Morin.
Coucou Santini.
Et nos invités, Isabelle Huppert et Thierry Clifford.
La bande originale.
C'est la plus belle façon de finir cette semaine avec vous pour parler de cette femme la plus riche du monde. Comment vous résumeriez le film, vous, Thierry Clifford ? Au-delà de l'histoire dont elle est inspirée, hein, cette femme, à savoir le portrait de Liliane Bettencourt.
Même si ça n'a rien à voir.
Non, mais on pourrait le prendre aussi autrement.
Moi, ce que j'aime, c'est que ça tient à la fois du roman balzacien, de la tragédie shakespearienne, mais que tout ça, on pouvait le traiter par la comédie, par la farce, et qu'en même temps, c'est traversé aussi par la grande histoire.
Oui, oui.
Et tout ça, je trouve ça génial.
C'est vrai qu'au-delà de l'histoire de cette famille, on pourrait dire simplement une famille de fiction, une famille riche. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est lié à l'histoire de notre politique, puisque à la table de cette famille puissante, tous les politiques venaient dîner, déjeuner et éventuellement repartir avec un chèque. C'est un peu ça l'histoire aussi, Thierry Clifford.
Oui, mais ça, je le traite pas trop parce que justement, ça avait été tellement raconté dans les journaux, que moi, j'avais pas du tout envie de...
Non, mais vous dites quand même à un moment que le président de la République pourrait intervenir face aux difficultés de la famille parce que le passé ressurgit, en fait.
Oui, mais ça, évidemment, je l'évoque, il s'agissait pas d'occulter tout ça, mais j'avais pas envie de représenter physiquement les politiques. Mais il y a quelque chose aussi qui me plaisait beaucoup, c'est qu'en fait, avant, les ultra-riches, c'était comme ça, quelque chose, on savait que ça existait, mais on cristallisait pas dessus, et surtout, quand cette histoire est sortie, cette femme la plus riche du monde, tout à coup, a eu un visage.
Oui,
c'est-à-dire, et je pense que c'est la première ultra-riche qu'on a identifié.
C'est vrai. Avec une curiosité collective, vous aviez une curiosité, Isabelle, pour cette histoire, cette famille, déjà ?
Oui, bien sûr. De toute façon, même si on n'avait pas une curiosité, à moins d'être sourd et aveugle, on en retenait forcément quelque chose. Mais au fond, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que, bon, comme dit Thierry, peut-être on mettait un visage, mais au fond, il y avait une perception assez misogyne de cette femme dans un premier temps, qui est un peu rétablie dans le film, parce qu'elle est tout à fait montrée comme une femme de pouvoir, comme une femme tout à fait responsable, comme une femme qui a été très importante dans l'évolution de la société, qui a fait au fond ce que la société est devenue véritablement. Donc, c'est pas du tout, le film contredit peut-être un peu une certaine perception qu'on a pu avoir d'elle au moment de l'affaire, surtout que, comme dit Thierry, encore une fois, très justement, c'est que lui, il prend l'histoire au début, alors qu'on connaissait la fin de l'histoire, donc où là, c'est forcément la manipulation, puisque c'est la perte des,
des moyens intellectuels, oui. Ce qui est encore aussi la prouvée. En tous les cas, elle l'a démenti, elle, jusqu'à la fin.
Jusqu'au bout,
oui,
elle
était
vrai.
Capable de le faire, de oui. le démentir. Donc voilà, le film rétablit aussi une image assez négative qu'on a pu avoir d'elle.
C'est vrai, ça permet aussi de voir en elle cette femme comme ça, qui décidait, qui était très libre aussi, qui avait quand même, pour sa génération, on peut aussi se dire que elle était assez avancée en termes de modernité. Vous avez demandé à Isabelle Huppert de la jouer comme le loup de Wall Street. Alors ça, j'ai vu une interview d'Isabelle qui disait « je m'en souvenais pas ». Donc ça n'a pas dû laisser une grande trace. Mais alors pourquoi l'incarner comme le loup de Wall Street ?
Parce que, en fait, quand je suis allé à New York, Isabelle joue au théâtre pour lui parler du film.
Vous jouez La Mère, c'est ça l'adaptation
Oui. Oui, exactement,
de Florian Zeller.
Et c'est vrai que j'avais vu peu de temps avant le film de Scorsese, et je trouve que DiCaprio, qui est un acteur que je vénère, il a une sorte de panache et une énergie.
Oui.
Et
voilà. Une
folie. Voilà, je sais pas, ça m'est venu, mais un peu comme une blague.
Attention, elle peut jouer Wonder Woman et elle peut jouer Leonardo DiCaprio.
Ah bah oui, on va faire la Louvre de Wall Street. Mais je trouvais, voilà, ça m'est passé tout à coup à l'esprit. Bon, je savais pas que ça allait être pris.
Bah, faut pas le dire alors.
Autant, si. Non, mais c'est quand même une bonne référence.
Ouais,
hein,
ouais.
DiCaprio Scorsese, un bon tandem. mais non, et puis que, en fait, Isabelle, en commun avec DiCaprio, c'est que, ça ne se voit pas, le travail ne se voit pas, on n'est jamais dans la performance, et notamment, je pense au film de Paul Thomas Anderson qui vient de sortir, on parle beaucoup de Sean Penn, à juste titre, mais celui qui a tombé, c'est DiCaprio.
Une bataille après l'autre.
Ouais. Et on ne voit pas son... Il n'est pas dans la performance, il est là, il incarne, et ça, Isabelle n'est jamais dans la performance.
On ne peut que être d'accord, Isabelle, avec cette femme la plus riche du monde, en salle, mercredi, au cinéma, un film de Thierry Cliffin, et tout de suite dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau.
Bravo. Récemment, j'ai fait une très bonne chronique, et là, vous dites, ah, mais de laquelle il parle, il y en a tellement. Celle sur le livre de Laurence Bloch, notre ex-patronne.
Oui.
Vous savez, cette petite dame dont les cheveux, depuis plusieurs années, se sont mis à lui dévorer la tête. Ce que Franck Provost appelle un grand remplacement capillaire. J'avais été séduit par ce livre, j'en ai parlé. Or, vous savez que cette chronique, diffusée à une heure stratégique, celle de la pause de midi, est extrêmement suivie.
C'est vrai.
Laurence Bloch, c'est plus 1200% de vente à la Fnac depuis. Quand elle entre dans une librairie, les employés font une orla. C'est comme une hola, mais pour les fans de Maupassant. Voilà, dire qu'Augustin Trapenard, parti sur RTL, n'entendra pas cette blague. Par conséquent, que se passe-t-il ? Depuis cette chronique, tous les éditeurs m'envoient leurs livres pour que je les cite. Rien qu'hier au courrier, j'avais « Ça fait vide maintenant », l'autobiographie de la présidente du Louvre, « Cesser de terroriser autrui pour les nuls », le nouveau Rachid Hadati, et le bouquin de François Baroin intitulé « Je ressemblais à Harry Potter, la magie continue puisque depuis j'ai disparu ». Et hier, je regardais depuis le bureau de la bande originale les tours du quartier Beaugrenelle en face, en me disant que l'âme humaine était bien noire pour arrivé à bâtir de telles horreurs, j'invoquais Rutshu Papapak, le dieu oiseau géant des Incas, afin qu'il lâche 80 litres de fiente liquide sur ses tours, quand soudain Enzo, mon stagiaire de 3e, s'est écrié « Maître, vous avez reçu un livre !» Encore ! Je me suis mis à crier, avant d'ajouter « J'en peux plus de ces profiteurs, ces squatteurs de hype, qui veulent jouir de mon aura !» Enzo a répondu « Oui, mais là c'est différent, c'est le livre d'Alexis le Rossignol !» Je m'arrête et je réfléchis. Le Rossignol, ça me dit quelque chose. Je demande à Daniel Morin, la mémoire de France Inter. Ici, on n'a pas d'IA. Quand on veut savoir un truc, on demande à Daniel. On dit Daniel, il était sympa, Pierre Bouteillé. Daniel répond, oui, mais moins que Jean-Vincent Bréchignac, le premier directeur d'Inter en 1947, un pote. Là, Daniel me dit, mais enfin, amour, Alexis Le Rossignol fut notre collègue de 2018 à 2024. Il avait un style décalé et était proche des gens du quotidien. Nagui le détestait. Et là, tout me revient. Alexis, les rires avec lui. À cette époque-là, l'émission était si drôle. Et donc, il sort un livre, Petite philosophie du flan. Sur le bandeau qui entoure le livre, Alexis, en photo, porte une veste bariolée que lui seul ose arborer. Puis ces mots, Alexis Le Rossignol est auteur et humoriste, il n'a jamais cuisiné de flan, mais en mange en moyenne 6 fois par semaine depuis 2019, ce qui lui donne toute légitimité sur le sujet. Phrase sujette à controverse, parce que dans ce cas, Nicolas Sarkozy sortira un livre sur les séries de pompes au club de sport de la prison de la santé. Alors, puisqu'apparemment cette chronique se transforme en book club. Voici ma critique, le livre est drôle, bien sûr, mais il est également tendre, comme un flan. Alexis explique qu'au départ, il n'était pas fou de flan, mais qu'un jour, un sketch où il disait aimer le flan est devenu viral, et que le public s'est mis à l'associer au flan, ce qui paraît peu flatteur. Hein, le flan, c'est mou, c'est flasque. Moi, je préférerais être comparé à un éclair au café, un très long éclair avec ça un fort diamètre. Un éclair qui ressemble à une poutrelle de chantier. Mais bon, c'est sans doute dû au fait que j'ai peu confiance en moi. Alors qu'Alexis, sous son air nonchalant, doit être un énorme winner. Donc lui égale flan, ça lui va. Bref, les gens se sont mis à lui apporter, à l'issue de ce spectacle, des flans. Ça fait 4 ans qu'il ne mange que ça. Il est en train de vider les stocks. Vous imaginez si le sketch viral avait parlé des cuisses de lapin à la moutarde, aujourd'hui, il n'y aurait plus un lapin vivant. Chantal Goya sur scène éclaterait en sanglots en disant « Regardez ce que le rossignol a fait !» Mais ça, c'est le flan qui a fait d'Alexis une superstar. Il fallait y penser à ça quand même. Rihanna, sa carrière, c'était 3000 tenues, 700 positions lascives, des tas d'albums, alors qu'elle posait juste avec un flan dans Vogue, hein, en faisant un petit reggaeton. « Rude boy, mange ton flan, rude !» C'était suffisant. Wow. Alexis le rossignol qui sait d'instinct ce qu'aime le peuple, à viser juste. Ouais. Moi, je m'épuise. Je fais des milliers de chroniques. J'ai 28 ans, j'en fais 55. Pour un résultat classique, je fais vendre des livres. Voilà, c'est tout. Alors qu'un sketch sur le flan, mais ça me propulsait. En plus, c'est trop tard maintenant, parce que si je me mets sur le flan, on va dire que je plagie. C'est J'aimerais vrai. Revenir ouais. en arrière. Juste avant que le rossignol fasse son sketch sur le flan, je pénètre dans sa loge. Aidé par 4 allergies colectoses, des anti-flans. Je le mets hors d'état de nuire. Je monte sur scène à sa place. Je déroule sur le flan. C'est le carton. Alexis, à l'inverse, se retrouve avec ma vie à moi. Oh coincé ici en compagnie de Daniel et Dol Delaf. Dans 20 ans, on sera toujours là tous les trois à faire des sketchs. Comme on sera vieux, on n'aura plus de filtre. Notre émission s'appellera Salut les connards. Oui, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que grâce au flan, Alexis a un public formidable qui lui offre des flans. Moi, j'ai quoi ? Des standing ovations qui ne s'arrêtent jamais. C'est pas avec ça que tu remplis ta panse. Parce qu'en fait, le flan est une passion française. Il mérite d'être classé à l'UNESCO. Emmanuel Macron pourrait, à la place de la Légion d'honneur, décorer les personnalités avec des flans. Bernard-Henri Lévy a passé 20 ans à se prendre des pâtisseries dans la gueule. Oui, aujourd'hui, il a 110 ans. Bah, regardez le teint qu'il a. On dirait The Voice Kid. Pas Patrick Fury, un candidat. Tenez, tapez flan dans Google l'actu. Mais c'est dingue, le flux est constant. Le Figaro, il y a 10 jours. Marseille, où trouve-t-on le meilleur flan de la ville ? Ouest France, il y a 5 jours. Où trouver les meilleurs flans de la ville de Rennes ? La Dépêche, le premier concours de meilleurs flans à la vanille de Tarn et Garenne, a rendu son verdict. Partout, il y a des concours de flans. Une société parallèle est en train de se constituer. Si Raphaël Glucksmann veut l'emporter en 2027, il doit plaquer Léa Salamé et sortir avec un flan. Regardez François Hollande, en 2012. C'était l'être humain le plus proche du flan. Il a gagné. Alexis le Rossignol en parle d'ailleurs dans son livre. Arrivé à ce stade de la chronique, le livre doit être numéro 1 des ventes, bien sûr. Alors vive lui et vive le flan.
Bravo Tanguy. Et vive Tanguy, qui sera où pour déterminer où est le meilleur flan ?
Salut les connards, c'est le meilleur titre d'émission du monde. Le 6 décembre, Tanguy au Touquet Paris-Plage pour son dernier spectacle formidable. Ce sera au Palais des Congrès, si je ne m'abuse.
Et dans la bande originale, la femme la plus riche du monde et petit hommage musical avec Gwen Stefani, Rich Girl. Rich Girl, interprété par Gwen Stefani, un titre produit par Dr. Dre, adapté d'un titre d'une comédie musicale.
Tout à fait.
Un violon sur le toit, et c'était un homme qui chantait If I Were a Rich Man, donc on s'est dit pour l'occasion, petit hommage au personnage incarné par Isabelle dans La femme la plus riche du monde. Ce film que vous sortez mercredi prochain, Thierry, est-ce que vous avez eu un retour des principaux concernés, même si c'est un film inspiré d'une histoire vraie, est-ce que...
Et qui n'a rien à voir.
Un sac de crème.
Un sac de crème, ça c'est pas mal. Oui,
non, mais je les ai laissés tranquilles et puis je pense que si je les avais rencontrés, ça aurait forcément faussé un peu les choses, donc ça aurait un peu troublé ma vision, donc voilà.
La liberté totale. Totale. Et quand vous vous êtes emparée du script, Isabelle, est-ce qu'il y a eu des allers-retours entre vous, justement, sur l'évolution du personnage, sa compréhension, est-ce qu'il y a eu un travail entre vous?
Le script, il était parfait, il était très clair, les dialogues étaient formidables, c'est les dialogues qui nous donnaient toute la liberté, parce qu'il y avait ce ton cruel, féroce, drôle, très drôle, et il fallait prendre cette liberté, il fallait absolument composer ces personnages à notre fantaisie, à notre convenance, et laisser notre imagination parler avant tout. Et c'est peut-être, c'était la meilleure façon de restituer une vérité.
Et il y a des phrases plus jouissives à dire que d'autres ou pas, justement dans les dialogues, parce que j'ai trouvé aussi les dialogues très savoureux.
Les dialogues sont formidables. Alors maintenant là, une phrase en particulier.
Ou si c'est pas la citation précise, en tout cas
riche,
c'est un sentiment.
Le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
Voilà. Oui, il y a toujours à chaque fois une petite.
C'est une des premières choses que je dis dans le film. Je crois que c'est la première fois qu'on entend la voix. Mais voilà.
Parce qu'on n'est pas éclaboussé par le luxe dans le film. On voit bien qu'on est dans un cadre aisé.
Il y a un jet quand même.
À un moment, il y a un jet, c'est vrai. Il y a un jet pour.
En fait, c'est un
répondu,
milieu.
C'est Isabelle à jet.
J'allais dire, ça rattrape tout à l'heure, ça fait un point partout. Isabelle, on écoute, pardon, je m'excuse à nouveau.
En fait, c'est un milieu qui est très codifié, qui a ses lois, sa morale, son éducation, mais qui finalement est très très peu représenté au cinéma, en tout cas cette bourgeoisie, cette grande bourgeoisie industrielle, catholique, traditionnaliste, et dont le luxe n'est jamais ostentatoire.
C'est vrai. On peut s'en rendre compte via les tableaux éventuellement accrochés au mur et encore.
Mais c'est très subliminal. Ouais. C'est pour ça que
on a beaucoup parlé du nom particulier.
Comment? Oui, oui. Non mais on voit qu'ils sont riches,
mais c'est pas bling bling et clinquant.
C'est pas comme dans Succession. Voilà, c'est-à-dire que l'argent ne doit pas se voir, si ce n'est
trop.
Évidemment, voilà,
un peu,
jet. c'est vraiment ils essayent un peu de passer sous les radars. Mais c'est aussi lié à une époque, c'est-à-dire que c'est un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Enfin, ce monde-là, c'est-à-dire que c'était on parle de la fin des années 90, le début des années 2000. Donc aujourd'hui, forcément, ils sont beaucoup plus exposés, scrutés, épiés. Donc voilà.
C'est moins tranquille pour eux, avec toute une troupe que vous réunissez joyeusement dans ce film. En tête, bien sûr, Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Raphaël Persona, dont on a parlé, André Marcon aussi, Mathieu Demi, Joseph Oliven, Michel Lescaut, pour lequel j'ai toujours une grande tendresse dès que je le vois apparaître à l'écran, Paul Beaurepaire, la liste est longue, Anne Brochet aussi, Yannick Régnier, tous ces interprètes-là, ce livre a un véritable rôle de composition, a une vraie troupe, quelque chose de... C'est très réussi, tout simplement. Vous êtes fier, vous êtes heureux de ce film, Thierry?
Ah oui, oui, je suis fier, je suis très heureux, parce que ce film, il y a des films qui ont des destins plus heureux que d'autres, et c'est vrai que depuis qu'on l'a présenté au Festival de Cannes, tout ce qu'on reçoit c'est assez incroyable. Je pense même que ça m'est jamais arrivé de cette façon-là.
C'est mérité. Tout de suite dans la bande originale, c'est Emma Beaujean.
Bonjour. Alors, tous les jours dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage aux voitures. Oui, les voitures, cette invention qui permet d'aller d'un point A à un point B et dans lequel on peut enlever ses crottes de nez dans le plus grand des calmes. On peut faire plein de trucs dans une voiture. Des activités, il y en a, et il y en a pour toutes les bourses. On a un beau spectre dans cette émission qui va de Oldelaf jusqu'à Nagui. Il y en a un qui défiscalise avec sa voiture et l'autre qui dort dedans. J'ai vu Daniel la tête là quand j'ai dit le mot bourse, il a cru que la blague, ça allait être pour lui. Tu n'es pas le centre de l'attention, Daniel. Moi, j'adore les balades en voiture la nuit. Je l'ai mon permis et je me rappelle avec émotion de l'avoir passé puisque mon moniteur d'auto-école, il était super gentil. En plus, c'est trop mignon, il zozotait. Après, peut-être qu'il n'était pas si gentil et qu'en fait, c'est juste qu'il zozotait.
zozoter. Non, mais c'est difficile de trouver quelqu'un de méchant alors qu'il zozote, c'est vrai. T'entends rarement quelqu'un dire c'est faire la misère, fils de pute. Oui, oui. Allez, allez. Et j'ai des bons souvenirs avec mon moniteur d'auto-école et je repense à chaque fois que je conduisais, il me disait les mains à 10h10, allez, on passe la seconde. Serré, on met sa ceinture de sécurité. En fait, fais des phrases avec moins de S, bordel, Jean-Sébastien. C'est fou, il disait que les trucs qu'il pouvait pas dire, genre. Et d'ailleurs, j'y pense, dans sa voiture, on peut écouter la radio, on peut écouter France Inter. Et oui, des gens nous écoutent dans leur voiture, là. Ça me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais donné ma voix à un service de GPS. Alors, je
vrai.
Dis donner parce que c'était encore moins bien payé que cette chronique. Continuez tout droit pendant 2 km, direction Angoulême.
Ah.
Au feu rouge, prenez à droite, direction Angoulême. À droite, putain, je t'ai dit, tu sais pas lire un panneau, c'est écrit Angoulême, ta grand-mère, là. Qu'est-ce que tu vas foutre à Angoulême? C'est pas le festival de la BD, non? Je sais pas, tu me traînes dans un milieu sexiste et misogyne, je sais pas, tu fais pas chialer Angoulême. Le stand-up parisien, ça suffit. En parlant de sexisme, c'est un truc qui revient toujours, les voitures. On entend toujours des conneries. Les voitures, c'est un truc de garçon. Nanana. Ouais. Bon, en même temps, c'est vrai que les hommes, ils l'aiment, leur voiture. Hein. Pour certains, pour vraiment certains hommes, laver sa voiture, c'est le seul moment de l'année où ils utilisent un aspirateur. D'ailleurs, j'ai déjà un date qui s'est fini dans une voiture. Alors, je parle évidemment de la banquette arrière.
Oui.
Si c'était le coffre, ce serait quelqu'un d'autre qui serait en train d'en parler à ma place. Parce qu'on peut se faire des bisous dans une voiture. On peut vivre des moments d'émotion très, très forts. Moi, je me souviens d'un jour en voiture qui a marqué ma vie. Quand ma maman, pour la première fois de ma vie, elle m'a autorisée à passer devant, à la place des grands, genre. Bon, ce jour-là, c'était pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, mais heureusement, j'étais assise à la place des grands pour savoir comment réagir, sûrement. J'ai passé des moments incroyables dans des voitures. J'ai fui mes problèmes avec ma meilleure amie sur du Jul, je suis tombée amoureuse sur du Dalida, et j'ai appris à conduire seule, ou à être à la place des adultes, à 4 comme à 24 ans. Et ce sont à tous ces moments que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Bravo, bravo Emma!
Emma Bonjean sur scène tous les vendredis au Mathurin, c'est à 21h.
Dans les projets à venir, Thierry Gabin, un héros français, ça fait partie... on en est où de ce film que vous réalisez?
On a terminé le scénario hier avec Jacques Fiski.
D'accord.
Vous voyez, ça tombe bien. Voilà.
Et c'est Benoît Magimel pour incarner Gabin.
Oui, ouais, exactement.
Donc on se revoit bientôt.
J'espère bien.
Isabelle, il y a beaucoup de choses aussi à venir. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on dit?
Le prochain, oui.
Ouais, le prochain, c'est quoi le prochain? Parce que j'en ai tellement.
Vous avez quoi?
Alors j'ai Illustre Inconnu de Marquis Toussy.
Voilà, ça sera le prochain.
Ah, ça sera le prochain, ouais. Avec Sandrine Kiberlin, ouais. Et Anne-Marie Vin, par exemple. Burnt Piano.
C'est quoi ça?
Justin Fleming.
Quoi?
Justin Fleming, non.
Je l'ai oublié.
Ouais, peut-être. Il y en a beaucoup. Et Histoire parallèle. Alors, Histoire parallèle d'Asghar Farhadi.
Histoire parallèle, voilà. Ouais. Je m'en souviens, je l'ai terminé hier.
Voilà.
Alors, l'autre, je m'en souviens pas.
Je pense que peut-être que j'avais pas la meilleure des informations. Peut-être. Il est temps de présenter des excuses, Daniel.
Ah, mais bien sûr, déjà, je suis désolé pour Julien Santini. Julien, j'ai eu ta maman au téléphone. Elle comprend pas pourquoi tu ne l'as pas appelée pendant l'émission. Je suis dit que tu avais une chronique à faire et aussi essayer de te faire aimer par une équipe qui te déteste. Elle n'a rien voulu savoir. Allez, file, elle est dans le couloir, elle t'attend et attention, elle est armée. Désolé pour les fans d'Isabelle Huppert, comédienne émérite, tragédienne incroyable, qui ce matin a été résumée à une Wonder Woman, sosie de Leonardo DiCaprio, fan de Madonna et amatrice de Poppers. Pardon,
c'est
Isabelle.
Pas faux.
Désolé encore une fois pour notre invitée Isabelle. Isabelle Huppert qui a connu des tournages pas simple, comme Les Valseuses de Blier, La Porte du Paradis de Cimino, La Pianiste d'Haneke, et jamais elle n'avait été aussi maltraitée que ce matin, entre la chanson folle d'Oldolaf et Leïla qui vous a confondu avec Isabelle Adjani. Remarquez, toute la matinée, elle parlait de vous en disant Isabelle Mergo, vous vous en tirez bien. On touche le fond, on y arrive plus heureusement la semaine prochaine, on est en rediff.
Ah, merci Isabelle, merci Thierry.
Merci
bravo
beaucoup.
Pour ce film, La Femme la plus riche du monde en salle mercredi. Merci à vous tous autour de la table et à toute l'équipe en régie pour cette semaine. Et ouais, c'est le week-end. On est vendredi, puis c'est même plus que le week-end, c'est les vacances. Et comme l'a dit Daniel, en effet, la semaine prochaine, best-of avec Camille Chamou, Pierre Arditi, Nicolas Briançon, Fab Caro, Sarah Giraudot, Jean-François Piège. Bref, que du bon sur France Inter. Merci à vous. Bonjour Dorothée Barba, on va où aujourd'hui dans les carnets de campagne?
On va dans le parc naturel de Chartreuse, Leïla, et on va parler d'accessibilité, mais pour la faune sauvage. Les points d'eau sont-ils accessibles à la biodiversité? À tout de suite.